La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Le corps, oui, le corps politique pour ce mois-ci. Qu'est-ce que le corps politique ? Alors, vous avez peut-être entendu parler des corps politiques chez Tocqueville, par exemple, qui parlent des corps intermédiaires, c'est-à-dire quelque chose qui soit un lien entre le citoyen, les citoyens entre eux, et qui va faire une transition entre le pouvoir politique et le citoyen. On pourrait dire que c'est une vision ou associative avant la lettre, ou corporative en fonction de l'héritage médiéval. Donc le corps politique, nous allons nous y arrêter un petit peu de manière bien plus large que dans ce sens réemployé par Tocqueville et qui est finalement un héritage de l'Ancien Régime, puisqu'avec l'avènement de la bourgeoisie, Révolution française 1789, Révolution industrielle qui fait que les steamers, les bateaux à vapeur vont remplacer les voiliers, que le charbon en Angleterre permettra la ferronnerie, mais au contraire la métallurgie. Regardez les balcons à Toulouse, vous repérez tout de suite un balcon 18e quand il est en fer, d'un balcon 19e quand il est en fonte. La fonte permet d'avoir un moule et on a quelque chose de plus solide et de plus homogène avec des dessins qui se reproduisent. Ce que Flaubert décrira comme l'art industriel que Monsieur Arnoux détient dans l'éducation sentimentale. C'est un grand paradoxe, vous le mesurez, parce que l'art n'est jamais industriel, il n'est qu'artisanal. Toute cette contextualisation rapide pour dire que la réflexion sur la politique, donc sur le corps politique d'une manière générale, va changer avec ce changement de société. Révolution industrielle et Révolution française où le peuple revendique le pouvoir. Liberté, égalité, fraternité. Alors les révolutionnaires s'appuient sur ce qu'on appelle les philosophes du XVIIIe siècle, les philosophes dits des Lumières, pour la France Diderot, d'Alembert, le baron d'Holbach, Voltaire et Rousseau. Rousseau connu pour son contrat social, dont on pourrait dire que le résumé ce serait « nous ». Volonté générale. Il s'agit que la volonté générale se transmue finalement la volonté particulière pour faire un contrat social. Sur ce fond de philosophie, après ce fond rapide d'événements historiques, il y a des grands penseurs du politique. J'ai cité Tocqueville en ouverture d'émission, qui écrit « De la démocratie en Amérique » et qui, à la fin de cet ouvrage, va interroger les trois notes « liberté, égalité, fraternité », mettant en garde sur la notion d'égalité, qui va, pour lui, être le lit possible d'un État totalitaire où l'individu, le citoyen, perdra ou peut perdre sa liberté. En cause justement de cette notion d'égalité qui n'est pas viable. Parce que la notion d'égalité, elle est peut-être une théorie, mais dans le plan pratique, il est difficile de l'intégrer. Vous le constatez, prenez une place en train, toutes les places sont égales pour le même tarif, mais ne sont pas égales puisque vous pouvez avoir la place près de la fenêtre, près du couloir, près de la porte, dans le sens de la marche. Il n'y a pas d'égalité dans le concret. Acheter une maison, regarder un appartement, il n'a rien à voir avec le voisin. L'exposition au sud, au nord, près du boulevard, devant les arbres, la pluie, etc. etc. Donc l'égalité est problématique dans la constitution nouvelle de la politique qui revendique finalement la démocratie contre la hiérarchie proposée par l'Ancien Régime. Le grand penseur de ce rapport de l'État à l'individu, conçu comme bürgerlich, c'est-à-dire bourgeois, dans les deux sens du terme, citoyen et bourgeois, c'est Hegel. Hegel, avec les fondements de la philosophie du droit en 1820, avec ses réflexions sur la politique, et c'est à partir de Hegel que Maritain va repenser la souveraineté. Alors Hegel ne naît pas comme un météore, il y a les penseurs de la modernité en politique, il faut remonter à Machiavel, le prince. Quelle est la spécificité de Machiavel? C'est de dire finalement la fin justifie les moyens. Et tout moyen va être bon pour que le prince se maintienne au pouvoir. À partir de cette, on va dire cet adage, il est possible de tromper le peuple. Puisqu'il s'agit de se maintenir au pouvoir, donc il n'y a plus une ordonnation du prince à la morale, c'est-à-dire à la vertu. Et Maritain va plus loin et dit « si la fin justifie les moyens, le danger, c'est que le prince perde sa crédibilité, parce que petit à petit, la confiance va s'effriter. Ici, il n'y a plus d'articulation du politique au bien commun et donc à la vertu. Et il y aura un jour un problème de désintérêt total du démos, le peuple, pour les urnes. Et il n'y aura plus de démocratie si on s'appuie sur le modèle proposé par Machiavel. Vous avez d'autres penseurs, Hobbes, dans le Léviathan, on est au XVIIe siècle, la monarchie anglaise est mise à mal puisque Jacques Ier a été guillotiné. En France, c'est la Fronde, donc problème aussi de contestation du pouvoir monarchique. Et Hobbes, dans le Léviathan, oppose l'état de guerre à l'état civil. Qu'est-ce que l'état de guerre? C'est un état finalement où la prédation de l'homme par l'homme est envisagée parce qu'il s'agit de se conserver. Et donc la conservation fait que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme peut tuer l'autre pour sa conservation. Comment éviter cet état de guerre? En passant à un état civil où finalement la remise de la volonté de chacun à au Léviathan, c'est-à-dire soit à un prince, soit à une assemblée qui légifère et qui gouverne, cette remise de la volonté propre, de la volonté personnelle, fait qu'il y a une aliénation de la personne au tout, qu'on appelle le Léviathan, ou prince, ou assemblée. Et cette manière de penser le corps politique est impensable pour Maritain. Vous le comprenez aisément, maintenant vous êtes de fidèles auditeurs de Maritain. Le christianisme a apporté deux choses, la personne inaliénable dans sa valeur absolue et la liberté. Donc il est hors de question d'aliéner la liberté et la personne à un tout. Donc le modèle hobbésien d'un Léviathan qui oppose un état de guerre à un état civil n'est pas possible pour Maritain. De même, le modèle de Rousseau, qui, d'une certaine manière, s'inscrit dans le sillage de Hobbes, même s'il est davantage éthicisé par cette remise de soi dans le contrat social, à la volonté générale, Maritain ne peut l'accepter non plus. Et c'est donc en réponse à ces quatre noms que je viens de parler, c'est toujours un peu rapide hein, de les mettre en perspective, Machiavel, Hobbes, Rousseau et Hegel, que Maritain réfléchit sur la politique. Alors je vais lui donner la parole, non pas à Maritain, mais à Paul Valadier, qui est un jésuite remarquable, qui a préfacé la réédition de L'Homme et l'État chez Desclée de Brouwer. Et dans la préface, on a eu un éloge de Maritain pour montrer que Maritain est un penseur éminent du politique pour des raisons factuelles. C'est quelqu'un qui très tôt a fréquenté l'autre monde, invité par Gilson à Toronto, donc au Canada, invité à faire des conférences en Amérique du Nord, puis en Amérique du Sud en 1936. Vous savez que la démocratie chrétienne dans toute la péninsule d'Amérique du Sud a été fortement marquée par les écrits de Maritain sur la démocratie, ainsi qu'en Italie. Et du coup, cette préface vaut la peine d'être lue, non pas de manière exhaustive, mais de manière élogieuse. Il se trouve que Maritain fut contraint à l'exil hors de France au moment de la déclaration de guerre de 1939 et de l'invasion par les troupes allemandes, car il donnait alors des cours au Canada, à Toronto, et ne put rentrer en Europe, écrit Paul Valadier. Rallié aussitôt à la résistance conduite depuis la Grande-Bretagne par le général de Gaulle, il refusa de se rendre à Londres, malgré l'insistance d'un Maurice Schumann, mais collabora en 1943 et 1944 à la voix de l'Amérique de New York pour stimuler le courage et la résistance de ceux des Français qui ne pliaient pas sous le joug de la collaboration. Maritain, je rajoute un petit mot, va écrire des messages pour les Français qui vont être acheminés de manière clandestine pour soutenir le moral des troupes, et il va organiser tout ce qu'il pourra faire pour sauver des amis juifs, notamment des artistes. Pour rappel, c'est le premier intellectuel, en 1938, à avoir eu le courage de publier un écrit difficile, impossible, antisémitisme. C'est donc à partir de la notion de mystère que Maritain va condamner l'antisémitisme, qui n'est pas un problème, mais qui est un mystère, parce que l'élection du peuple hébreu par Dieu est mystérique. Elle appartient au dessein de Dieu, et il ne s'agit pas d'en faire un problème à régler de manière mathématique, mais au contraire, de donner toute son épaisseur mystérique, parce que ça ne relève pas des visions de l'homme. Rendons la parole à Paul Valadier. Ce séjour forcé aux États-Unis fut pour le philosophe l'occasion d'une découverte qui, il n'est pas exagéré de le dire, bouleversa sa conception de la démocratie et plus largement de la relation entre politique et religion chrétienne qui se faisait alors. Un peu comme Tocqueville un siècle auparavant, Maritain découvre la démocratie en Amérique, c'est-à-dire un tout autre modèle que celui auquel cet homme de famille très laïque et marqué fortement par la tradition républicaine peu favorable au catholicisme, mais aussi proche de Maurras dans les premiers temps de sa conversion au catholicisme, était accoutumé, à savoir une opposition frontale entre le catholicisme et la démocratie, ou plus largement, entre l'Église et la modernité. En Amérique, il approfondit et confirma ce que des contacts antérieurs à la guerre et ses premières conférences dès 1938 avaient déjà amorcé. Il constata non seulement que la confrontation typiquement française n'a pas cours, mais que la démocratie a été importée en quelque sorte par les pères fondateurs en même temps que leur christianisme. Bref, que démocratie et christianisme peuvent aller parfaitement de pair et que, bien loin de paralyser la vie démocratique, le christianisme en constitue un ferment toujours vivant et puissant. Ces sonates de Scarlatti, par leur modernité, nous font mesurer la modernité de Maritain. Vous l'avez deviné, il ne s'agit plus d'opposer la royauté, la monarchie à rattacher au christianisme, opposé à la démocratie qui serait le fruit de la philosophie des Lumières, athée, profondément athée. Et non, le propos de Maritain, c'est justement de revenir à la source de la démocratie qui, pour lui, est le vivre ensemble, c'est-à-dire une articulation de la personne humaine et de sa liberté. Rendons la parole à Paul Valadier dans sa préface à la réédition de L'Homme et l'État chez Des Clés de Brouwer, et voilà qu'il met le doigt sur une autre dimension de Maritain. Une autre circonstance n'en est pas moins décisive. Maritain fut invité à collaborer aux travaux de l'UNESCO en vue de préparer la Déclaration des droits de l'homme parue en 1948. Je vous rappelle, il s'agissait de faire la paix. Au cours des discussions, il fut confronté à des positions idéologiques, philosophiques et religieuses diamétralement opposées, apparemment incompatibles entre elles. Il fallait bien pourtant parvenir à trouver des bases communes permettant la coexistence pacifique entre cultures et peuples si divers, ou alors renoncer à cette plateforme nécessaire en renvoyant chacun à une sorte de guerre des dieux inexorable. les expériences des deux guerres mondiales, mais tout autant celles de ce que, dès les années 30, Maritain dénonçait de manière assez prémonitoire comme les fascismes franquistes ou mussoliniens et les totalitarismes nazis et bolcheviques qui multipliaient les violences contre peuples et personnes obligées à sortir de ces cycles infernaux de la violence. Ne fallait-il donc pas, malgré toutes les divergences, s'étendre et s'entendre sur quelques droits fondamentaux, toujours et partout opposables, encadrant et stabilisant le respect de la personne. Cette double expérience, celle d'un contact prolongé avec les États-Unis et celle du travail à l'UNESCO, constitue l'arrière-fond de l'homme et l'État. Livre essentiel donc, devenu pratiquement introuvable ou seulement dans les œuvres complètes éditées par les éditions universitaires de Fribourg et de Paris. En effet, la liberté de ton, l'accord franc donné à la démocratie, un apparent affranchissement à l'égard de la problématique thomiste, simplement apparent, tout cela crédite la thèse comme quoi ce texte, L'homme et l'État, constitue un tournant, voire un apax, c'est-à-dire quelque chose d'unique dans l'œuvre globale du philosophe. Paul Valadier nuance. Il faut d'abord rappeler que l'œuvre de Maritain est immense et concerne tous les grands thèmes de la réflexion philosophique, le tout sous le patronage librement entendu de saint Thomas d'Aquin. Philosophie de la connaissance, de l'art, de la mystique, de l'éducation, de la morale, de l'histoire, métaphysique, sans omettre les pages décisives condamnant avec force et conviction l'antisémitisme. Pour toutes ces raisons, on pourrait donc penser que l'intérêt pour la politique proprement dite, et surtout le regard positif jeté sur la démocratie, constitue un tournant, voire une rupture, dans l'évolution d'un Maritain chevalier de l'absolu, selon le titre d'un livre récent. Mais ce serait oublier que son éloignement des analyses de Maurras en se soumettant, non sans réticence, à la condamnation du pape en 1926, l'a conduit très vite et très tôt à une méditation féconde sur le rapport entre temporel et spirituel, sur le rôle des laïcs chrétiens dans la vie de la cité, sur un humanisme intégral qui ne soit pas un intégrisme, ni même un intégralisme. Ce serait oublier tout autant ses engagements, soit auprès d'Emmanuel Mounier, dans la fondation de la revue Esprit, soit peut-être surtout ses prises de position contre les compromissions de l'Église avec le franquisme, ou diverses prises de parti entre 1930 et 1939, qui ne furent guère appréciées par nombre de catholiques. On s'étonne moins alors que toute cette expérience intellectuelle ait trouvé un aboutissement fécond après la Seconde Guerre mondiale et au contact des expériences existentielles rappelées plus haut aux États-Unis et à l'UNESCO. Sans doute retient-on généralement, et non sans raison, la critique très radicale conduite dans ces pages de l'homme et l'État contre le concept de souveraineté. Et l'on est porté alors à accuser Maritain d'ignorer un des piliers de la modernité politique, soutenu aussi bien par Jean Bodin ou Hobbes dans sa version absolutiste que par Rousseau dans sa version populaire. Mais en réalité, cette critique fait corps avec une conception forte de la démocratie parfaitement thomiste en cela, puisque Maritain affirme qu'il appartient au peuple de se gouverner, tandis que le concept de souveraineté est une façon subtile et savante de déposséder le peuple de ses droits au profit d'une élite ou d'un pouvoir qui le domine et s'impose à lui. Il faut en conclure que c'est la modernité politique qui a trahi l'inspiration démocratique authentique. Et donc, que la démocratie n'a en réalité jamais été mise en place ou captée par ce que le langage d'époque appelait la démocratie bourgeoise. Et s'il faut critiquer cette modernité, ce n'est pas pour rêver d'un retour à la chrétienté médiévale, mais pour donner vraiment au peuple le pouvoir sur lui-même, là où et partout où il peut juger lui-même de ses justes intérêts ou de son bien et adopter les mesures aptes à les réaliser. Finalement, on est guère loin du principe de subsidiarité popularisé par la doctrine sociale de l'Église, bien que Maritain ne fasse guère usage de cette expression. Il faut donc insister sur certaines caractéristiques de la pensée de Maritain concernant la démocratie qui le situe de manière originale dans le concert des philosophies politiques contemporaines d'où il est généralement exclu. Ce n'est pas lui qui parlerait d'avènement de la démocratie selon une logique imparable, s'établissant avec une sorte de nécessité historique capable de vaincre tous les obstacles et notamment d'établir une bienheureuse autonomie là où ne régnait jadis que l'hétéronomie religieuse. Je vais terminer cette première semaine avec un extrait des principes d'une politique humaniste. C'est un livre écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale. On voit que tout est en gestation chez Maritain face à ce désastre. En 1944, il écrit « Ce sont les droits de la personne humaine qui, dès la base et à travers tout le système, doivent être reconnus et garantis, en telle sorte qu'une démocratie organique serait par essence la cité des droits de la personne. Les droits de l'homme et du citoyen ont été compromis auprès d'esprits qui se croient forts par le rousseauisme, dont la déclaration de 1789 porte la trace. Nier, à cause de cela, l'existence de tels droits serait aussi sensé que mépriser pieusement la science à cause de l'athéisme de certains savants. Si la personne humaine est sans droit, il n'y a nulle part de droit ni par conséquent d'autorité. En réalité, les droits primordiaux de la personne, en tant même que membre de la cité, expriment eux-mêmes l'inaliénable autorité de l'image de Dieu. Et ce que demande un juste esprit démocratique, c'est qu'à cette autorité, si constamment méconnue et outragée parmi les hommes, un certain pouvoir corresponde de par les structures de la cité. On le voit, la réflexion de Maritain face à la montée des totalitarismes est de réfléchir sur la différence entre autorité et pouvoir. L'inaliénable autorité vient de l'homme fait à l'image de Dieu, et à cette autorité-là, il faut un pouvoir qui soit un correspondant et non pas un asservissement de la personne à une institution ou à une instance politique.